Radio Starberg.
Morning edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Et d'abord donc il y a ce nom qu'il tient de son père, mais qui n'est pas son père. Cette légende du père américain, il l'a gentiment laissé circuler pendant un petit moment. Il y a cette période de la fin de la guerre, celle des baby-boomers des années 50, biberonnée à une Amérique qu'il découvre, il au pluriel, avec délice, avec envie, celle de James Dean, celle d'Elvis Presley. Il y a cette Amérique d'image d'Épinal aussi, de grands espaces de poncho, de Harley Davidson et de Nashville. Au fond, l'Amérique de Johnny, c'est un fantasme, une idée, un idéal, un film d'Elia Kazan. L'Amérique de Johnny, c'est une mythologie. Et c'est ce qu'on va voir autour de cette table avec plein d'invités. D'habitude, le monde est vaste dans Un jour dans le monde. Et c'est vrai qu'il est un peu rétréci ce soir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Vous entendez en ce moment simplement le bruit de la foule qui était réunie vendredi soir au Palais des Sports pour saluer les héros modernes du rock'n'roll. Au cours de cette émission, vous allez pouvoir entendre dans l'ordre de parution en scène, tout d'abord Les Chaussettes Noires, un nouvel ensemble, ensuite Frankie Jordan, et enfin la grande vedette franco-américaine, je veux dire française, non, je crois que sa mère est née au Batignolles et son père dans le Massachusetts, Massachusetts Noire bien entendu, Johnny Hallyday.
Les Massachusetts Noirs, on va pas s'en remettre.
Ça n'existe pas, je peux vous dire.
On va pas s'en remettre tout de suite. Et alors, tiens, bonsoir Valy, puisqu'on vous a entendu, vous aussi, vous êtes du Massachusetts
ou Connecticut, la même région.
Et ouais. Je vous présente pas, Valy, bien sûr, tous les auditeurs de France Inter vous connaissent. Et Thomas Negaroff également, qui est là, historien spécialiste des États-Unis. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Fabienne.
Ce qui est intéressant dans cette archive, il y a deux choses en fait. D'abord, on va revenir sur ce prénom, sur ce nom américain, mais on sent déjà dans la présentation la totale incompréhension qu'il peut y avoir entre cette personne qui présente les Chaussettes Noires, une nouvelle formation, et tout ce qui va se passer derrière, Thomas. Ça parle du fossé générationnel, là, tout de suite, en fait.
Oui, alors, j'ai relu sur son premier 45 tours, 1959, au dos, la mention imprimée, c'était « Américain de culture française, il chante aussi bien en anglais qu'en français ». Donc, il y a effectivement un truc qui s'est joué là, de l'identité. C'est qui ce type qui bouge comme un Américain, qui chante des chansons d'Américains, mais en français? Et lui-même a joué là-dessus. Hein.
Il l'a laissé courir un peu longtemps, ce mythe, quand même. Enfin, quelques mois, peut-être, en tout cas, dans son démarrage.
Oui,
ça faisait bien.
Oui, et en expliquant que Hallyday, et c'est pas faux, n'était pas un nom inventé, contrairement à tous les autres, Eddie Mitchell, etc., qui, eux, ne niaient pas. Hein. Mais lui, effectivement, et vous avez raison, il y a une vraie bascule générationnelle. Johnny Hallyday, c'est bien sûr l'idole des jeunes, c'est l'incarnation de la jeunesse. On parlait pas de la jeunesse avant les baby-boomers, c'est les jeunes, c'est plus les jeunes gens de la belle époque, c'est la jeunesse, et elle trouve en Johnny Hallyday une incarnation, quelque chose qui la renvoie à une image mythifiée, fantasmée, vous l'avez dit, de l'Amérique.
Alors justement, je voudrais qu'on se remette un peu dans le contexte, Thomas. Johnny est né en 1943, donc il grandit dans cette France-là, celle de l'après-guerre, celle qui a découvert avec les Américains les Lucky Strike et les chewing-gums. Oui. Il y a encore des Américains partout, il y a des bases américaines qui existent et qui sont partout. L'American Way of Life, ça, on imagine jusqu'à quel point ça peut fasciner un gamin comme Johnny qui a quoi, 17 ans au moment où on se parle.
Oui, et qui a 12 ou 13 ans quand James Dean va mourir. James Dean, pour les enfants de cette génération-là, c'est Dieu sur Terre. C'est trois films, mais alors... Et d'ailleurs, vous savez que même Michel Berger, qui a écrit et qui n'est pas de la même famille de pensée, la même culture que Johnny, il fera quand même une comédie musicale avec Luc Plamondon sur James Dean en 1990, parce que lui aussi est un gamin de ces années-là. Donc ça traverse effectivement les classes populaires. Mais vous avez raison, en 1959, 60-61, jusqu'en 66, il y a encore des bases américaines, les bases de l'OTAN. La France n'a pas encore quitté le commandement intégré sous le général de Gaulle. Donc on est encore dans cette France-là. On a vu arriver des dizaines et même davantage de films américains qui nourrissent la propagande américaine et qui avaient pour beaucoup été bloqués pendant la guerre et qui déferlent sur la France à partir des années 47, 48, 49, qui vont nourrir aussi la nouvelle vague. Donc c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas que la culture populaire et les yéyés. Cette américanisation, elle passe par plein de médiums, dont Johnny Hallyday.
Et alors, la première inspiration valide de tous ces jeunes gens, et notamment de Johnny Hallyday, lui, pour le coup, l'Atlantique, il l'a traversé, mais dans cette même vague-là, c'est Elvis Presley. La première marque, on va dire, c'est celle-là.
Mais oui, parce qu'on parle des films, et c'est-à-dire à cette époque-là, comment on découvre l'Amérique, comment on découvre les choses. Il n'y a pas Internet, il y a quelques disques, parce que je pense à l'époque, c'était pas facile de trouver les disques aussi. Et bien sûr, c'est Elvis Presley, parce que déjà, on a le culte, peut-être le Grand Ouest, avec les films de John Ford, Ford et puis Elvis Presley, James Dean et Marlon Brando dans l'équipe Vie Sauvage, etc. Donc Elvis Presley, il c'est Dieu sur terre, il chante de la musique noire, il chante du blues comme Johnny a dû découvrir le blues comme tout le monde à cette époque-là, en tout cas les Anglais et tout ça. Et donc oui, Elvis Presley, ça fait une raz-de-marée et évidemment c'est le rêve.
Et il y a quelque chose de rebelle en fait. On va écouter une archive qui parle de James Dean dans un instant, mais chez Dean, chez Elvis Presley aussi, on n'a jamais vu ça quand même, se déhancher
aussi, là. Bah c'était évidemment aussi, comme disait Thomas, c'est que c'était l'époque où les teenagers commencent à être une vraie...
C'est un groupe,
ils ont leur argent de poche, ils deviennent vraiment quelque chose, justement, le marketing est né à cette époque-là, et pour c'est formaté pour les teenagers à cette époque-là. Et Elvis Presley, il arrive là-dedans, c'est pas la musique de papa, c'est ma musique, c'est rebelle, et voilà, c'est là où Johnny Hallyday était attiré par ça, comme beaucoup d'autres.
Thomas, pardon.
Et on...
J'allais vous appeler Johnny.
Vous pouvez y aller ce soir, tout le monde est Johnny un petit peu. Non, le truc en plus, c'est que Johnny, alors effectivement, on n'est pas dans le même monde, il n'y a pas l'internet, on voyageait beaucoup moins à l'époque, évidemment. Et Johnny a ramené des disques lui-même que Lee Hallyday lui passait. Donc, il a été pas seulement une éponge, il a aussi été un passeur de chansons américaines, traduites évidemment, ensuite adaptées à la France. Donc, c'est un rôle un peu plus fort
et
que ça.
Et peut-être qu'il parlait aussi la supériorité qu'il avait par rapport aux autres, son beau-père américain, qui parlait donc l'anglais. Il y avait aussi une compréhension chez lui que peut-être les autres n'avait pas en fait, donc il avait cette espèce de supplément d'âme, lui.
Vous croyez vraiment que Johnny, je sais pas,
il parlait pas très bien
anglais,
mais
il avait...
mais au moins il y avait quelques notions qui dirais... bien plus que Eddie ou Dick peut-être.
Bien sûr, mais il avait un supplément d'âme et surtout un supplément de corps, parce que le corps de Johnny, c'est un corps qui ressemble dans l'animalité, dans le physique, au corps d'Elvis ou des grands rockers américains, avec les mêmes réactions. Hein. Je regardais un peu dans les archives, les réactions en 60, 61, 62, c'est pareil, les mêmes réactions. Oh, quelle horreur! Ce corps, c'est cette bestialité, ce danger social que représente Johnny Hallyday.
Alors justement, tiens, on parlait de James Dean à l'instant et du mimétisme des corps aussi. On est chez Jacques Sancel dans Radioscopie en 1970.
À cette époque-là, j'essayais de ressembler surtout à James Dean. Et comme James Dean était mort, j'avais 15 ans, 16 ans à l'époque, j'ai essayé de me coiffer comme lui. J'essayais de me décolorer les cheveux, j'essayais d'avoir la même couleur de cheveux qu'il avait.
C'est difficile d'être Johnny Hallyday.
Oui, quand on est le point de mire, oui, il faut faire attention.
Et vous faites attention.
Maintenant, je fais attention.
Mais à l'époque, justement, l'idée, c'était de pas faire attention, c'était d'embrasser, j'allais dire, cette rebellitude, ouais. D'embrasser ce côté James Dean, ce côté fureur de vivre, surtout, Thomas, en fait.
Oui, c'est ça. Et c'est, alors, bien sûr, Valia a raison, il y a un côté très marketé. Il faut pas non plus envisager que ces gens-là sortent de nulle part et qu'ils ont un talent extraordinaire et qui n'est pas construit. Non, il y a derrière une radio, derrière un journal, derrière des gens qui organisent des spectacles, il y a beaucoup d'argent. Mais c'est vrai que quand on regarde tous les gens de l'époque, il y en a peu qui ont duré. Et le mystère Johnny, c'est aussi ça, c'est la question de la durée, comme s'il avait pu imprimer en permanence l'histoire. Et je pense que votre émission de ce soir sur les États-Unis, c'est certainement un bon angle pour comprendre aussi pourquoi ça a imprimé autant et aussi longtemps, parce qu'il y avait quelque chose, à mon avis, de peut-être beaucoup plus sincère que chez les autres, où c'était une pure construction intellectuelle de se dire américain. Lui, il y avait le nom, il y avait les voyages, il y avait une fascination qui certainement était... peut-être un peu disneyisé dans l'esprit, mais elle était sincère.
Parce que aussi, c'était l'après-guerre en France quand même, en 61, c'était très peu de temps après la guerre, et même si nos boys sont venus en Europe, on n'a pas vécu sur notre terre cette même déchirure et blessure. Donc nous, dans les années 50, c'était bon, le rock'n'roll qui naît, mais aussi l'American Way of Life, la bonne femme derrière sa cuisinière, avec le sèche-linge... La blague, quand je suis arrivée, même en 81, en France, c'était « Ah oui, ils ont des sèches-linges, ils ont un téléphone, il y a les toilettes dans la maison. »
Il y a des frigidaires, incroyable.
Les frigidaires, non mais c'est vrai, donc c'est...
Ça
faisait rêver.
Oui, ça faisait rêver. Je repense à ce qu'on entendait à l'instant, cette décalco de l'Amérique, où pour l'instant, et à ce moment-là, ni Johnny, ni aucun d'autre n'a jamais mis les pieds, en fait. Donc on est intégralement dans le fantasme, parce qu'on ne sait même pas à quoi ça ressemble dans la réalité, cet endroit, en fait, finalement.
Mais je pense que c'est vraiment ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire on voulait avoir tous les conforts qu'on pouvait avoir, entre la voiture, c'était assez guindé, les femmes ne bossaient pas comme en Europe aussi. C'est-à-dire les familles, ce qu'on aspirait être, c'était que le mec va au travail, papa, il ramène the bacon, comme on dit, il a gagné sa vie, mais c'était pas comme ça évidemment partout, parce qu'il y avait des pauvres. Et surtout, la musique qu'il a mis Johnny, ça venait de vraiment le
quand
sud.
Même, hein. Il va tôt en 62, hein, à Nashville.
Et ouais, très jeune. Il va aux sources. Ouais.
Alors, en parlant des sources, tiens, la voilà, la source, c'est Blue Suede Shoes, mais vous allez voir cette version magnifique avec Carl Perkins. Well, it's one for the money, two for the show. Later get ready and I go cat go, but don't you ever want blue suede shoes. You can do anything but they harm on blue suede shoes. Well, you can knock me down, step on my face, slam my name all over the place. Well, do all the things that you wanna do. Yeah. Well, only half of my shoes, but don't you step on my blue suede shoes. Yeah. Well, you can do anything. Just step on my blue suede shoes. Come on, let's knock it again, baby. It's so one for the money, two for the show. I try to get ready now, go, go, go. But don't you step on my blue suede shoes. Yeah, well, you can do anything, but they are for my blue suede shoes. Blue, 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 blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything, but they are for my blue suede shoes.
Là, je pars en Amérique, là, et je pars avec un ami à moi, qui s'appelle Sacha, et on emmène nos motos de Paris. Et
vous emmenez vos motos aux États-Unis?
À Los Angeles, et de Los Angeles, on va aller en moto à Las Vegas, parce qu'il y a Elvis Presley qui chante, et c'est la première fois que je vous le verrai chanter. Et ensuite, donc on y reste une nuit, et ensuite on part à l'aventure pendant deux semaines, et on s'arrête, bon, on s'arrête où on trouve, s'il n'y a rien, on couchera la belle étoile, on va faire ça pendant 15 jours.
C'est un vieux rêve d'enfant?
Non, c'est un rêve que j'ai depuis que j'ai vu un film qui s'appelait Easy Rider.
Oui.
Le kiff total, Fabienne.
Mais oui, mais totalement. Et alors, j'allais dire tout y est. Alors, la moto, la belle étoile, Easy Rider. Honnêtement,
mais c'est fou,
il manque rien.
C'est un touriste de base presque, et il emmène avec lui les gens qui le suivent. Quand il va à Las Vegas,
y compris la moto d'ailleurs,
et qu'il fait ses séries de concerts, les gens qui sont dans les avions affrétés, bah c'est des gens de France,
ouais,
qui débarquent en Amérique.
C'est Camus qui amène, je ne sais pas combien de.
C'est-à-dire que en fait,
personnes.
L'Amérique dans la tête de Johnny, elle se déplace avec Johnny, ce qui est quand même assez frappant. C'est pas l'Amérique qui vient à lui, c'est lui qui vient et qui fantasme une Amérique et qui après se balade à travers lui.
Oui, mais ça c'est aussi parce que Johnny Hallyday a jamais percé là-bas. D'ailleurs, dans certains titres, je pense que c'est en Angleterre. Sans doute, il dit le the greatest rock star you've never heard of, le plus grand star de rock dont vous avez jamais entendu parler. Parce qu'effectivement, la langue française, ça traverse pas l'océan, ça traverse pas la Manche. Et Johnny, il adore ça, comme beaucoup d'Américains. Moi, j'ai déjà fait tous ces trucs Grand Canyon aussi. Et l'Amérique tous. Aussi, c'est la route, c'est le rêve. C'est Johnny, j'ai vu sur un Harley Davidson avec son aigle tatoué bien avant que c'était la mode des tatouages. Enfin, c'est le rêve américain des grands espaces, que même nous aux États-Unis, on rêve de ça aussi. Mais c'est la voiture, on parle.
Et c'est vrai, c'est ce que vous disiez, Thomas. C'est son Amérique fantasmée, c'est son Amérique d'enfance, en fait, qu'il va chercher, qu'il essaye de retrouver, et y compris son idole d'enfance, puisque là, on l'a entendu, il va voir Elvis Presley. Donc effectivement, il trimballe son enfance aussi, en même temps que ses amis.
Oui, c'est assez émouvant d'ailleurs, un peu d'une certaine manière. C'est un peu les poupées russes, il y a la petite poupée en bas, et c'est ça. Et c'est même pas la vraie Amérique, c'est l'Amérique qu'il voit au cinéma. Ce qui est encore plus troublant, c'est-à-dire qu'il y a un double filtre. Il y a le filtre de lui qui a grandi, et puis le filtre de lui qui voit une Amérique parmi des écrans et qui cherche absolument à conformer cette image à ce qu'il voit en vrai et à le diffuser ensuite. Donc effectivement, son Amérique comme des années 50, c'est aussi l'Amérique de la ségrégation raciale.
Voilà.
C'est une autre Amérique, c'est pas uniquement l'Amérique de James Dean. Or, l'Amérique qu'il nous vend, c'est en fait l'Amérique qu'on lui a vendue. L'Amérique que
les teenagers, et
voilà,
tout ça
c'est,
aussi.
C'est cette Amérique du rêve américain.
Mais l'autre Amérique, Valy, il a pas envie d'aller la chercher vraisemblablement. Effectivement, celle d'Elvis Presley, c'est aussi l'Amérique de la ségrégation.
Totalement, surtout dans le sud.
On est en plein Martin Luther King. Enfin, tout ça est extrêmement lourd, tout ça est extrêmement violent aussi. Ça ne transparaît nulle part chez Johnny. Bah, c'est marrant parce que ça lui passe au travers, vraisemblablement.
Peut-être, mais quand Thomas parle du fait qu'il était fasciné par Elvis Presley, les Beatles aussi, tout le monde était, c'était leur dieu. Donc c'était pas juste un pauvre petit Frenchie qui est allé rêver sur Elvis Presley. Elvis Presley, c'est l'inventeur de rock and roll. Donc on peut pas blâmer Johnny Hallyday non plus d'être fasciné par Elvis Presley. Et juste pour parler des Beatles, parce que eux, leur rêve était pas américain, à part pour les musiciens comme avec les Rolling Stones ou les Bluesmen, qu'ils ont vraiment ressuscité, que l'Amérique s'en foutait, et tous ces gens, même Johnny, a ramené ces gens sur le devant de la scène. Mais les Beatles, ils ont refusé, comme évidemment ils ont fait carrière aux États-Unis, ils ont refusé, j'ai appris ça récemment, je connais beaucoup de choses sur les Beatles, qu'ils refusaient de chanter dans les salles ségrégées. Donc, moi je sais pas, ça fait très innocent, mais il a fait rêver beaucoup de gens aussi avec ça, Johnny, parce que les gens adorent taper sur les États-Unis, et ça, c'est depuis toujours, les Français adore l'Amérique, c'est nul. Mais on aspire tout de là-bas. Mais effectivement, Johnny passe peut-être à côté de faits de ségrégation dans les années 50 et 60, surtout les années 60.
Est-ce qu'on tapait autant, d'ailleurs, Thomas, sur l'Amérique à l'époque? Parce qu'après tout, ce qui venait jusqu'à nous, je veux dire, on est avant Twitter, avant Internet. Donc, est-ce qu'on tapait autant, de toute façon, sur l'Amérique qu'on tape aujourd'hui sur l'Amérique? Finalement, cette image de Johnny, pardon, c'est celle de tout le monde.
Alors oui, c'est l'image mainstream. Alors, il y avait les communistes, quand même, qui dénonçaient la coca-colonisation après la Seconde Guerre mondiale, un terme de l'époque. Mais ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où l'Amérique commence à être de plus en plus critiquée, quand on voit un anti-américanisme qui monte en France dans les années 70, début 80, il fait une chanson qui s'appelle « Mon Amérique à moi ».
J'allais vous y emmener pile. Mais
voilà, parce que cette chanson « Mon Amérique à moi », elle est parfaite parce qu'il prend en compte les problèmes de l'Amérique, mais il les balaye, alors c'est des textes de Philippe Labro, il les balaye pour dire que son Amérique à lui, c'est pas celle-ci. Donc, encore une fois, il résiste au réel. Et il
vend du rêve.
Et il vend du rêve, effectivement, le rêve américain. Mais ce qui est marrant, c'est que dans cette chanson, il le dit très clairement.
Et la voici, justement, cette chanson, Mon Amérique à moi.
Mon Amérique à moi, c'est une route sans feu rouge. Depuis l'Hudson River jusqu'en Californie. Et dans ma mémoire, je conserve une silhouette qui bouge. Celle d'une fille en jeans entre Nashville et Baton Rouge. Elle marchait en rêvant, près du Mississippi. C'est un petit studio en Floride, dans la banlieue près d'Orlando. Avec trois guitaristes, deux batteurs, trois banjos, on avait enregistré une nouvelle version de Blue Suede Shoes sur un air paresseux et nonchalant de blues. Ouais, mon Amérique à moi. Mon Amérique à moi. Mon Amérique à moi est telle que je la rêve, telle que je l'ai vécue, et telle que vous l'avez vue dans les films noirs et blancs. La lumière était belle, et les figurants des westerns semblaient tout droit venus des albums illustrés signés Norman Rockwell.
Mon Amérique à moi.
Je vous rigoler. En
non, mais
la chanson.
Je n'avais jamais vraiment écouté les paroles de cette chanson. Et non, c'est Philippe Labro qui l'a écrit avec sa bague de l'université américaine qui adore montrer à tout le monde. Mais voilà, c'est un chanteur avec la musique. On n'a pas de racisme.
Bon, alors effectivement, à un moment quand même, ni flic, ni fusil, ni drogue, ni sang. Voilà, comme ça, on peut évacuer ça très vite. C'est ça. Ça, c'est fait. Ouais. Mon Amérique à moi, telle que je la rêve. C'est vraiment ce que vous disiez à l'instant. Telle que je la rêve, telle que je l'ai vécue, telle que vous l'avez vu dans les films noir et blanc, la musique était belle, etc. Voilà. etc.
Ouais, ça me rappelle quand, au moment de la... Alors, c'est un point d'histoire, mais quand Ben Laden est recherché par George W. Bush, il dit Dead or Alive, comme je le voyais quand j'étais petit sur les posters dans le Texas de mon enfance. Sauf que des historiens ont raconté que ça n'existait pas. Et donc, il représentait dans sa tête les films américains qu'il voyait à l'époque.
Les Américains font les films aussi, et donc, voilà, hein, je veux dire un truc.
Et ça, mais c'est-à-dire que la réalité et la fiction se transforment, y compris chez les Américains, qui effectivement croient en leur mythe, comme Paul Venn l'avait dit sur la mythologie classique. Et Johnny Hallyday croyait effectivement en ces mythes. En tout cas, dans cette chanson, il a l'air plus sincère, puisqu'il sait bien que ce n'est pas la réalité, mais qu'il souhaite et accepte l'idée même de vendre un rêve.
Bonsoir Jean-Luc Hesse, pardon. Valy, vous aurez l'occasion de reprendre la parole, c'est promis. Bonsoir Jean-Luc.
Bonsoir Fabienne.
Bienvenue Jean-Luc dans Un jour dans le monde. Tiens, j'imagine que vous vous souvenez de ça. Ça a un petit peu vieilli, mais franchement, à peine. C'est vous qu'on va entendre tout de suite. On est parti.
C'est vrai que les États-Unis, c'est un rêve de gosse pour moi. C'est vrai que mes idoles de ma jeunesse sont... C'est l'Amérique. Donc je suis resté fidèle à mes idées. Mais c'est pas le bout du monde pour moi dans mes rêves. C'est vrai que j'ai navigué un petit peu en mer et c'est vrai que j'ai découvert d'autres endroits qui sont formidables.
Voilà, j'ai quand même découvert d'autres endroits qui sont formidables. Jean-Luc Hesse, vous vous souvenez de cette interview? Vous vous souvenez de ce moment? C'était dans Synergie, j'imagine.
En 1997, je
voilà,
pense.
Peut-être, à peu près, il y a une petite vingtaine d'années. Vous vous souvenez de ce moment-là, de cette interview?
Oui, j'ai encore de la mémoire, je m'en souviens très bien. On fait un beau boulot quand même. Moi, je connais pas Johnny Hallyday, hein. je fais pas l'autopsie tous les jours de quelqu'un de connu et qui vient de disparaître, hélas. Mais ça m'avait beaucoup frappé parce que j'avais des idées reçues sur Johnny Hallyday. Parce que ma femme est folle de Johnny Hallyday, moi j'étais pas trop fan de Johnny Hallyday. Mais quand j'ai rencontré cet homme-là, chez lui, c'était Villa Molitor, si j'ai bonne mémoire, il y a vraiment un truc qui s'est passé, comme c'est ce que disent tous les gens qui l'ont rencontré un jour ou l'autre d'ailleurs. Et c'est je m'y connais bien en animaux, je passe mon temps avec eux, et c'est vraiment un animal, quoi. C'est quelqu'un qui dégage tellement que, bon, c'est toujours assez impressionnant, mais on se laisse pas impressionner, on est là pour faire une interview. Et c'était dans un contexte assez particulier, parce que France Inter ne diffusait jamais, jamais, jamais un disque de Johnny Hallyday. Nous étions snobs comme des poux, un télo, tout ça, c'était
pas notre truc. Aujourd'hui encore, on n'en entend pas trop non plus, sauf à certaines occasions.
Et donc, c'était un petit problème tout de même, et je sais pas pourquoi il avait accepté l'interview, parce qu'il était très fidèle à sa station préférée, RTL, Belle Radio, tout ça. Et donc, on prépare l'interview, il arrive en retard, il avait dû se coucher très très tard, malgré la promesse qu'il m'avait faite, qu'il sortait plus le soir comme avant, qu'il avait bien changé et tout. On se retrouve chez lui, grand appartement, avenue rue Molitor, et puis tout est bleu. Tout était bleu, mais alors bleu de chez bleu, quoi, avec des petites fleurs de lys sur les murs. Et pour faire la conversation pendant le temps qu'on installe l'interview, je dis, tiens, c'est joli, tout ce bleu roi, là. Il me dit, non, c'est pas bleu roi, c'est bleu Laetitia. Je lui dis, ouais, mais enfin, c'est bleu roi. Il me dit, non, c'est bleu Laetitia. On commence à s'engueuler autour de la couleur du bleu. Et je m'étais dit, voilà un type qui aime vraiment sa femme, il a oublié qu'on appelle ça le bleu roi, et pour lui, c'est le bleu Laetitia. Bon, je passe sur les détails, et il me fait, vraiment, il avait quelque chose d'extrêmement gentil, mais on sent que c'était un homme très compliqué, avec, je vous dis, cette animalité. Alors, moi, ça m'intéresse beaucoup, parce que si vous regardez bien les animaux, en général, on se pose toujours des questions sur eux, sur leurs expressions, s'ils sont intelligents, s'ils sont cons, si... Ben, lui, il avait oublié d'être con, manifestement, et c'est vrai qu'il m'a beaucoup impressionné, il m'a beaucoup fait rire aussi, parce qu'il s'est décontracté assez vite. Et à un moment, je lui dis la vérité, je lui dis, écoutez, je suis pas un fan absolu, il y a deux ou trois chansons que j'adore. Et puis voilà, puis j'ai vécu aux États-Unis, ah toc, il tilte, tout ça, donc on parle un peu de musique de là-bas. Et puis, je dis, ma femme, en revanche, elle est raide dingue de vous. D'ailleurs, elle m'a dit, je ne sais toujours pas si c'est vrai, que son père lui avait offert un billet de première place, de premier rang, à l'Olympia quand elle avait 16 ans, et qu'elle m'a dit, Johnny m'a regardé, je crois qu'il est raide dingue de moi. Et il et tout ça pendant l'interview. Donc, il me regarde un peu bizarre, et puis il attrape le micro, et il me dit, comment elle s'appelle? Je dis, Caroline. Alors il prend le micro, puis il dit « Caroline, je t'aime ». Alors ça, j'ai fait monter ça en boucle, ma femme m'adorera toujours pour ça. Mais il était vraiment très, 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 très attachant. Mais je ne le connais pas, j'ai vu une autre fois, en plus en moto. dans les canyons de Los Angeles.
Ah bah quand même, c'est là que j'allais vous emmener, quand même. Vous avez fini par le trouver sur les canyons de Los Angeles. Parce que ce passage, Jean-Luc, pardon, sur les États-Unis que vous évoquez avec lui, vous aviez ça à partager, effectivement, vous, votre très long séjour aux États-Unis, et puis cette fascination qu'a Johnny, quand il en parle, vous avez le sentiment qu'il parle de quelque chose qu'il aime vraiment, qu'il vénère réellement. Comment il vous en parle de cette Amérique-là?
Vous savez, je vous entendais tout à l'heure et je vous félicite d'ailleurs pour dire des choses intelligentes sur Johnny Hallyday après 15 heures de trucs non-stop sur toutes les antennes que je regarde et que j'écoute. Mais moi, je suis né à Évreux à côté d'une base aérienne. Et donc, il y avait 6000 soldats américains et leurs familles. Si vous en parlez, par exemple, à Depardieu, lui, il est né à Châteauroux, c'est pareil. Ouais. Il y a une fascination extrême. Et moi, j'ai pas fait la carrière de Johnny Hallyday, hein, mais je n'avais qu'un rêve de gosse, c'était d'aller vivre aux États-Unis. Donc, un jour, ça s'est fait. J'y ai passé 10 ans. Et je comprends tout à fait qu'on soit... on n'est pas victime du mythe. Il s'y passe tellement de choses, il s'y est passé tellement de choses, on doit tellement de choses à ce pays... que bon, c'est pas anormal d'être amoureux de l'Amérique. Alors on peut critiquer, je suis le premier à critiquer tout ce qui se passe, surtout en ce moment aux États-Unis. C'est pas le problème, c'est une idée l'Amérique. Et je crois que les gens bien ont toujours une idée de quelque chose qui leur tient à cœur pour le restant de leur jour.
Quoi. Et au fond, vous aviez la même, en fait, image de l'Amérique, peut-être, en fait, au fond, cette même fascination, donc la même image, vous et Johnny Hallyday, voyez, un vrai point commun.
La comparaison va s'arrêter là, mais c'est vrai que je conserve d'ailleurs cette idée de l'Amérique, cette idée d'enfant, quand je voyais les petits-enfants américains, comment ils vivaient, leur blue jean, leur bagnole, Ray Charles qui venait à Évreux, vous voyez, c'était les disques, Bobby V, tout ça, toutes ces choses que personne probablement ne connaît, mais qui font rêver jusqu'à aujourd'hui. Je continue de rêver d'un pays mythique. Et alors, c'est pas un gros problème. En tout cas, j'ai l'impression que ça lui a pas fait de mal dans sa carrière et puis même dans ce qu'il est. Et je trouve qu'il a mieux fini qu'Elvis Presley, a tourné le meilleur film d'abord. Et puis physiquement, il avait une autre allure, y compris sur la fin.
Donc voilà, on a vu Valli qui levait les mains comme
ça. N'oublions pas qu'Elvis est mort sur sa toilette,
ne cassons pas trop les mythes.
Non, mais voilà, Johnny était plutôt classe jusqu'au bout.
Oui. On est d'accord.
Tiens, ça va vous faire plaisir, Jean-Luc Hesse. Merci beaucoup de ce petit passage dans Un jour dans le monde. C'était un vrai plaisir. I was a carpenter. Ça, c'est l'autre période quand on rentre dans le Johnny Country, en fait, le Johnny Nashville.
Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Amy, voudrais-tu alors m'épouser et porter notre enfant?
If it didn't go away, I might still find you. I'd be carrying the pot you made and following behind you.
Well, save my love through loneliness, save my love through sorrow. I'm giving you my loneliness, come and give me your tomorrow.
If you worked your hand in wood, would you still love? Answer me, baby, so and I'll place you.
Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Amy, mes mains seraient sèches et dures et le tien si fragile. Well, save my love through loneliness, save my love through sorrow. I've given you my loneliness, come and give me your tomorrow. If I were a carpenter and you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby? Would you marry me anyway? you hug my baby? Would you marry me anyway? Would you hug my baby?
Ah ben ouf, ça on peut le dire.
Ouais. Superbe version de, avec Emmylou Harris.
Voilà, j'allais dire, je vais vous laisser des annonces parce que vous l'avez reconnu tout de suite.
Ouais.
C'est l'album Nashville, on est en 1984. Effectivement, c'est un moment down, un moment un peu plus compliqué dans sa carrière. On est juste avant la période Michel Berger. Et là aussi, on a l'impression qu'il va puiser dans cette bonne vieille Amérique, là, quelque chose qui va peut-être pouvoir le remettre un peu sur le cheval.
Et surtout que Nashville, c'était vraiment... Il y avait Memphis qui était vraiment rock'n'roll et Nashville, c'était vraiment là où ils ont commercialisé le country, donc ça m'étonne pas qu'il se retrouve à Nashville pour enregistrer de la musique.
Ouais, il a puisé dans des genres quand même très différents, parce que la country et le rock'n'roll, c'est pas exactement la même chose. Et il a effectivement puisé dans plein de registres différents. Après, il revient encore avec son tour 66. Ce qui est marrant d'ailleurs, hein, par rapport à l'idée de l'Amérique, en 2008, il lance son tour 66, évidemment ça pense à la route 66, mais qui n'existe déjà plus aux États-Unis, qui est encore la route 66.
Bah si, je l'ai pris plein de fois.
Ah oui, mais d'accord. Mais
ce sont des petites portions pour expliquer aux gens, elle existe par petits bouts. Il y a même des endroits qui sont assez surréalistes où l'autoroute passe et à côté, il y a une petite route qui ressemble à rien, mais c'est la vraie 66 et on y trouve des Harley Davidson.
Voilà, parce que la vraie route 66, je crois que c'est en 85 qu'on a débaptisé. Et c'est marrant que, encore une fois, Johnny et son Amérique rêvée, il la réinvente 15 ans après sa disparition, même 20 ans après sa disparition, dans un mythe, encore une fois, réactivé.
Alors, en même temps, on appelle ça the Mother Road, la mère, la route.
La mère des routes.
Oui, et même aujourd'hui, je veux dire, c'est même aux États-Unis, c'est ça reste un truc.
Mais de toute façon, il n'a pas inventé l'Amérique mythifiée, c'est les Américains eux-mêmes qui l'ont inventé. Hein.
Et sauf que lui, il a plongé dedans, mais comme nous tous par ailleurs, mais il a plongé dedans. Une dernière chose, puisqu'il nous reste 3 minutes à passer ensemble avant le téléphone sonne. Moi, j'ai quand même un doute. Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas aussi une forme de regret quand même, de ne pas avoir su la saisir, de ne pas avoir su la conquérir, cette Amérique-là? Et est-ce que ce n'est pas finalement la raison pour laquelle il est resté dans cette Amérique mythifiée, cette Amérique d'enfance? Parce que l'Amérique réelle, l'Amérique actuelle, la rencontre avec Johnny, elle ne s'est pas faite. Thomas,
c'est sûr que quand on lit dans la presse le Elvis Presley français, New York Times, il y a une pointe d'ironie quand même, parce que pour les Américains, Elvis Presley, il n'y en a pas deux, hein, il n'y en a qu'un seul. Mais en même temps, comment Johnny pouvait-il marcher en Amérique mais en singeant un peu les Américains et dans une langue qui n'était pas celle des Américains? Et en plus, il faut ajouter quand même que là, dans les années 80, par exemple, quand ils tentent vraiment d'y aller, il y a un protectionnisme très fort aux États-Unis. Michel Berger, par exemple, est contacté par Diana Ross pour faire un album et l'industrie américaine du disque dit stop. Donc, il y avait aussi ce protectionnisme. Il n'y a pas que quelque chose qui est lié à Johnny Hallyday et la résistance à Johnny Hallyday. Mais c'est vrai que Johnny, les Américains ne l'ont pas attendu pour le faire.
Le seul chanteur français qui a vraiment marché aux États-Unis, c'est Charles Aznavour, d'ailleurs, qui a écrit pour Johnny Hallyday aussi. C'est juste impossible, vous avez vécu là-bas, Fabienne. Peut-être la musique latino, parce qu'il y a beaucoup de latino là-bas,
Mais même en chantant en français, Vali, quand on pense, moi je trouve ça assez ironique finalement, Johnny arrive à un moment, donc au début des années 60, fin des années 50, début des années 60, et il casse en morceaux un certain nombre de chanteurs qui étaient là, je pense à Edith Piaf qui est morte peu de temps après, et qui, elle, réussissait aux États-Unis et en français, y compris uniquement en français.
Même parce que les Américains, ils aiment les Français quand ils correspondent à l'imagerie d'Épinal des Français.
Qu'est-ce qu'ils vont faire avec, exactement? Ils vont pas avoir ersatz américain qui arrive sur leur terrain.
Ils adorent le film dont le titre m'échappe, The Artist, parce que The Artist, soit en fait ça marche quand on leur rend hommage mais de manière délirante, soit quand on a la baguette et qu'on est Charles Trenet par exemple, ça bien sûr ça fonctionne, mais quand on est comme les Américains, mais forcément en moins bien, ça fait pas rêver.
Tiens, puisqu'il nous reste à peine une minute et que bientôt, tout à l'heure après le journal, dans le téléphone sonne, on posera cette question rituelle. Qui est votre Johnny? Vali, si vous aviez quelque chose à donner comme ça, une idée, votre Johnny à vous, c'est qui? Est-ce qu'il y a une chanson, quelque chose, un souvenir? Ce qui vous saute à la figure, c'est quoi?
Moi, je sais pas, c'est des interviews que j'ai vues où il est pas arrogant, il est juste quelqu'un qui parle comme vous et moi, comme monsieur tout le monde. Et c'est ça, mon Johnny à moi. C'est vraiment quelqu'un de doux, finalement, et qui n'est pas prétentieux. Voilà.
Et vous, Thomas, votre Johnny?
C'est un peu le même. C'est le Johnny qui, apparemment, est inconsolable pendant, à la mort de Michel Berger, qui pleure pendant des jours et des jours. Je trouve ça assez, assez émouvant.
Eh ben, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, mot de la fin pour l'instant. Valy, je rappelle qu'on vous retrouve, alors, pas ce soir, puisque édition spéciale, mais que d'habitude, vous êtes chez Laurent Goumard entre 22h et minuit sur France Inter. Thomas Negaroff, merci beaucoup. Merci à Jean-Luc Hesse qui a fait un petit passage sur France Inter et ça nous a fait vraiment plaisir. La suite du 18-20, c'est le téléphone sonne. Venez nous raconter votre Johnny, venez nous raconter votre Johnny Hallyday. Si vous avez envie d'écouter une chanson, eh bien, on vous la passera. On espère qu'on n'ira pas la chercher tout au fond des archives. Mais on fera de notre mieux. Si vous avez un souvenir, venez le partager avec nous. Si vous avez un film, tiens, parce qu'on n'a pas parlé de Johnny au cinéma, mais venez nous le raconter. Sébastien va le faire dans un instant. Si vous avez une anecdote, allez-y aussi. Plein d'invités dans le téléphone sonne aussi, notamment Thomas Dutronc qui signe une très jolie version de Gabriel dans l'album Hommage à Johnny qui est sorti il y a quelques semaines. Voilà, donc dans un instant, c'est le téléphone sonne. Tout de suite, c'est Sébastien Paour pour le journal qui sera là dans un instant. J'attends les bips là, tels que vous me voyez, Sébastien Paour. Vous savez ce qu'on va faire? Vous savez ce qu'on va faire? Ça s'appelle le top horaire à blanc. Écoutez ça.